Laudetur Jesus Christus.
Entre des catholiques dans le carême, hier après-midi, lors de la messe des cendres, l'homélie prévue par le pape a été lue. François invite à prendre le chemin vers Pâques entre la mémoire de notre fragilité et l'espérance qu'à la fin de la route, le ressuscité nous attendra. Les Européens à l'heure des choix face aux nouveaux choix stratégiques et diplomatiques des États-Unis à la pression russe. Les 27 s'organisent pour mieux assurer leur défense et poursuivre leur soutien à l'Ukraine. Un sommet de l'Union Européenne sur ces questions s'ouvre aujourd'hui à Bruxelles. Et puis hier soir, Emmanuel Macron s'est adressé solennellement aux Français pour sonner le rappel. La menace russe est là, elle nous touche sans connaître de frontières, a-t-il dit, ouvrant le débat sur l'élargissement de la dissuasion nucléaire à ses partenaires européens. Nous irons en Guinée. 2025 sera l'année du retour à l'ordre constitutionnel, annonce hier des autorités de transition qui vont organiser un référendum et des élections présidentielles et législatives. La France et l'Algérie, chronique d'une énième crise où la politique intérieure compte plus que les relations diplomatiques. C'est ce que nous verrons dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. État de santé stable pour le pape François qui a passé une nuit tranquille et qui se repose encore actuellement. Il n'a plus souffert de crise respiratoire depuis lundi. Il a poursuivi hier la physiothérapie respiratoire et motrice tout en recevant une oxygénation à haut débit pendant la journée et une ventilation mécanique non invasive pendant la nuit. En ce mercredi des cendres, le Saint-Père a participé au rite de bénédiction des cendres qui ont été imposés avant de recevoir l'Eucharistie. Le pape, évidemment, n'a pas pu présider la messe des cendres en la basilique Sainte-Sabine comme le veut la tradition hier. C'est le pénitencier majeur, le cardinal De Donatis, qui l'a remplacé sur la colline de l'Aventin à Rome. L'ancien vicaire de Rome a lu l'homélie que le pape avait préparée pour cette ouverture du carême. Dans ce texte, il indique que les cendres donnent l'orientation du chemin du carême vers Pâques, indiquant la mémoire de ce que nous sommes, mais aussi l'espérance de ce que nous serons. Jean-Benoît Harel.
Nous avons été créés à partir de la poussière et nous retournerons à la poussière. Voilà comment François a débuté hier son homélie. Le signe des cendres que les fidèles ont reçu sur le front rappelle la fragilité de chaque être humain, a souligné le Saint-Père, par l'expérience de la maladie et de la souffrance. Mais il existe une poussière plus insidieuse, la poussière que François appelle la poussière fine, celle qui pollue le monde avec ses oppositions idéologiques, l'exclusion des autres, l'exploitation de la terre ou encore la violence et la guerre. Les cendres nous rappellent qui nous sommes, cela nous fait du bien, poursuit François, mettant en garde contre la tentation de cacher ou de marginaliser le drame de la mort. Mais comme le disait Benoît XVI, si l'homme est poussière, il est une poussière précieuse aux yeux de Dieu, parce que Dieu a créé l'homme en le destinant à l'immortalité. Et c'est en ce sens que les cendres appellent à l'espérance. Lors de ce carême, François encourage chacun à mettre le Christ au centre de sa vie par le jeûne et l'aumône. Ces trois moyens pour suivre le Christ entraînent les cendres du péché et de la mort vers la gloire de la vie éternelle, car conclut le Saint-Père, le Seigneur balayera toujours les cendres de la mort pour nous faire resplendir d'une vie nouvelle.
Jean-Benoît Harel, et pour plus de précisions sur cette entrée en carême, une seule adresse, www.vaticannews.va. La guerre en Ukraine, c'est d'abord et avant tout des combats, des bombardements et des victimes, comme ces quatre personnes tuées cette nuit. Trois l'ont été par un missile russe tiré sur la ville de Kryvyi Rih, dans le centre du pays. Un hôtel a été frappé, 31 autres personnes ont été blessées. Et puis un autre civil est mort, cette fois dans une attaque de drones sur des entrepôts dans la périphérie de Soumis et dans le nord de l'Ukraine. Qu'en sera-t-il de ce conflit? La réponse réside pour une partie en Europe, où les 27 chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union européenne se retrouvent aujourd'hui à Bruxelles pour un sommet extraordinaire consacré à la défense et à l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera d'ailleurs présent. L'UE veut afficher son unité face au revirement des États-Unis et ne veut pas manquer ce tournant. Retour sur les enjeux du sommet avec à Bruxelles Jean-Jacques Herry.
L'Union européenne doit maintenant assumer sa défense par elle-même et pour elle-même sur le long terme. Au sein des 27, tout le monde est à peu près d'accord. Cela nécessite évidemment des moyens et le plan de réarmement annoncé mardi par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, doit guider cet effort. Les 27 y sont plutôt favorables et en discuteront aujourd'hui. Au total, grâce entre autres à un prêt aux États membres de 150 milliards d'euros garanti sur le budget européen ou encore à la réorientation de fonds européens déjà budgétés, la Commission espère mobiliser 800 milliards milliards d'euros. Les règles budgétaires européennes seront d'ailleurs assouplies pour permettre aux États de dépenser plus et plus vite pour se réarmer, avec des incitations aux achats groupés pour réduire les coûts. Les 27 identifieront également les secteurs industriels où il faudra investir en priorité. On les connaît déjà plus ou moins. Il s'agit de la défense antiaérienne, des drones et des systèmes anti-drones ou encore de l'intelligence artificielle. La question ukrainienne, elle, s'inscrit en miroir de ce réarmement, explique une source diplomatique européenne. Les conclusions du sommet devraient faire apparaître noir sur blanc la volonté de l'UE de continuer à soutenir l'Ukraine et de l'aider à obtenir des garanties de sécurité solides et durables pour une paix. Jean-Jacques Herry, Bruxelles, pour Radio Vatican.
Et parmi les pays européens qui affichent clairement leur soutien à l'Ukraine et leur souhait que l'Europe joue un rôle, il y a la France. Hier soir, son président s'est adressé solennellement aux Français. Emmanuel Macron estime que l'Europe ne doit plus laisser le soin de sa défense au parapluie américain. Il fait valoir que les événements historiques en cours exigent des décisions sans précédent, tant au niveau français qu'au niveau européen. Le compte-rendu de Marie-Christine Bonson.
Dans son allocution, Emmanuel Macron a considéré que les États-Unis ont changé leur position sur la guerre en Ukraine, laissant l'Europe dans le doute. Il a aussi estimé que la Russie teste les limites des pays occidentaux. Monsieur Macron souligne que l'avenir de l'Europe n'a pas à être tranché à Washington ou à Moscou. Il nous faut être prêts si les États-Unis ne sont plus à nos côtés, déclare-t-il. Le président Macron fait valoir que la France et l'Europe doivent prendre des décisions et sans tarder. Il prône le réarmement de la France et de l'Europe en marge de l'OTAN. Il annonce des investissements supplémentaires au niveau français, mais avec la promesse de ne pas augmenter les impôts. Il demande l'engagement des Français, mais sans indiquer si les Français devront consentir des sacrifices. Il entrevoit des pas décisifs lors du Conseil européen d'aujourd'hui, notamment des financements communs massifs dans le secteur militaire, mais sans donner plus de détails. Dans un revirement potentiellement historique de la doctrine de défense nationale, il souhaite ouvrir un débat en vue de partager la capacité nucléaire de la France avec ses alliés européens. Mais il assure que la décision du recours à l'arme atomique resterait toujours française. Marie-Christine Bonzon. Pour Radio Vatican.
Le chef des Serbes de Bosnie rejette l'autorité de la police et de la justice centrale. Milorad Dodic a promulgué hier une loi en ce sens, ce qui a été qualifié de coup d'État par les dirigeants bosniaques. Cela constitue au moins un défi pour la Bosnie, composée de deux entités, la croato-musulmane et la Republika Srpska, qui partagent des institutions fragiles depuis une trentaine d'années. L'aide internationale américaine avec ce revers pour Donald Trump, la Cour suprême a une courte majorité. Somme finalement le président de verser les montants dus, soit près de 2 milliards de dollars. La nouvelle administration américaine avait suspendu toute aide dès sa prise de fonction. Une décision contestée par un juge, l'affaire avait fini devant la plus haute instance judiciaire des États-Unis. En Guinée, le retour à l'ordre constitutionnel sera effectif cette année avec l'organisation d'un référendum d'élections présidentielles et législatives. Annonce faite hier par le Premier ministre guinéen de transition, Baori, lors d'une conférence de presse tenue à Conakry. Après avoir pris le pouvoir par un coup d'État en 2021, les militaires Myriam Sandouno ont donc précisé le calendrier du retour théorique des civils.
Oui, Xavier, même si cela doit être encore étudié, assure le Premier ministre guinéen, la principale difficulté à surmonter reste la constitution du fichier électoral qui, dit-il, peut être source de déstabilisation. Depuis bien longtemps, rapporte-t-il, la Guinée n'a pas réussi à avoir un fichier électoral suffisamment consensuel. La possible candidature de Mamadi Doumbouya, actuel président de la transition, arrivée au pouvoir par un coup d'État militaire le 5 septembre 2021, reste au cœur des débats. À ce sujet, le Premier ministre guinéen précise que la décision finale lui revient si la constitution le lui permet en toute objectivité. Il n'y a aucune raison de le lui refuser, a-t-il laissé entendre. La gestion du pouvoir actuel ne rassure pas forcément l'opposition et les organisations des droits de l'homme qui continuent de se mobiliser contre les disparitions forcées d'opposants et d'acteurs de la société civile. Deux opposants qui réclamaient un retour des civils au pouvoir sont toujours portés disparus depuis plus de 7 mois.
Myriam Sandouno, c'est l'heure maintenant de passer à notre dossier. « La France et l'Algérie de nouveau en crise. À l'origine de ces derniers différends, la décision de Paris d'adopter la ligne de Rabat sur le Sahara occidental, une ligne rouge pour Alger. À ce dossier ancien s'ajoute l'incarcération depuis novembre 2024 en Algérie de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, sans oublier le refus par l'Algérie de reprendre ses ressortissants en situation irrégulière en France, dont l'auteur d'un attentat à Mulhouse le 22 février. On pourrait parler aussi d'influenceurs algériens dont les propos sont considérés en France comme dangereux. Le gouvernement de François Bayrou et principalement son ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, hausse ainsi le ton et menace l'Algérie de dénoncer les accords de 1968 qui établissent les règles de circulation entre les deux pays. Mais le président français a rappelé pour sa part qu'une telle décision était de sa compétence. La question ne fait pas donc que diviser l'Algérie et la France. Elle semble bien diviser aussi d'abord et avant tout les Français. C'est ce que nous explique ce matin Khadija Mohsen Finan, politologue spécialiste des relations franco-algériennes.
Cette crise bilatérale entre deux États, elle est gérée comme une crise intérieure. La France, qui est l'ancienne puissance coloniale en Algérie, a toujours traité, a continué à traiter l'Algérie comme une affaire intérieure. Et là, on a vu depuis la dissolution de l'Assemblée nationale française en juin 2024, l'arrivée d'une partie de la droite et des Républicains qui ont absolument géré, notamment par leur ministre Retailleau, le ministre de l'Intérieur, la relation avec l'Algérie à travers ce prisme sécuritaire, le prisme des Algériens qui sont frappés par une obligation à quitter le territoire parce qu'ils sont en situation irrégulière et par le prisme de ces influenceurs qui ont été à l'origine manipulés par le pouvoir algérien.
Les échéances électorales françaises, est-ce qu'elles expliqueraient pas aussi cette évolution ?
On a l'impression qu'une partie du gouvernement est déjà en campagne électorale pour 2027 et a voulu se saisir de cette question de ce conflit avec l'Algérie pour mobiliser une grande partie des Français sur la question sécuritaire en faisant le lien entre les personnes, les immigrés en situation irrégulière, le terrorisme et l'Algérie et les Algériens.
L'Algérie aussi l'utilise à des fins de politique intérieure ?
Chaque fois qu'il y a une crise avec la France, il y a une volonté du personnel politique algérien de mobiliser, si vous voulez, le nationalisme autour de ce rejet de la France. Nous sommes donc devant deux situations en miroir où il y a un accaparement de cette question à des fins de politique étrangère et en manipulant la cause nationaliste, que ce soit en France ou en Algérie.
Autrement dit, l'Algérie est pour la France son meilleur ennemi et vice-versa.
Pour le moment, oui. Et je le regrette d'abord parce que l'Algérie et la France sont condamnées à s'entendre. Il y a une très forte communauté algérienne en France. Il y a un passé commun. Il y a une proximité géographique et une proximité culturelle. Et d'autre part, la France n'a pas à choisir entre le Maroc et l'Algérie. La France doit avoir de bons rapports avec les États de son flanc sud, que ce soit le Maroc ou l'Algérie. Mais vous savez, il y a 2 ans, le meilleur ennemi, c'était le Maroc. Et dans les journaux marocains proches du pouvoir, le couple Macron, la classe politique française et les Français étaient traités de tous les noms. Donc, c'est une crise qui n'a pas vocation à perdurer, et je l'espère en tout cas.
Comment sortir de ce cycle ?
Il faut qu'il y ait une volonté de sortir de ce cycle. Après le renvoi de cet influenceur d'Oualem par le ministre de l'Intérieur, l'Algérie l'a renvoyé, et à partir de là, ça a fait tache d'huile. On a vu d'autres acteurs politiques français qui se sont saisis de cette question. Donc, il n'y a pas eu une volonté d'étouffer ça, mais au contraire, de l'étendre, de l'approfondir jusqu'au Premier ministre François Bayrou, qui a dit que la France était sur le point de réviser tous les accords signés avec l'Algérie, laissant entendre qu'il y avait des privilèges que la France allait retirer à l'Algérie.
Khadija Mohsen Finan, politologue spécialiste des relations franco-algériennes, était ce matin l'invitée de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 13h heure de Rome. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va ainsi que sur notre page Facebook ou notre compte X. Excellente journée à toutes et à tous.